Marie-France, l'affaire Roson et ses développements. Hier, à cette heure-ci, on pensait qu'il n'y aurait probablement pas d'accusation.
Exactement.
Et aujourd'hui, on s'est levé puis on a appris qu'il y en avait
une. En fait, non. Aujourd'hui, on s'est levé et quand on regardait un quotidien en particulier, on se rendait, il était absous, littéralement. Il n'y avait pas d'accusation.
C'est vrai.
Puis les nouvelles sont tombées pendant la matinée.
Dans l'avant-midi.
Et dans l'avant-midi, on s'est rendu compte, donc, qu'il y aurait deux chefs d'accusation de viol et d'attentat à la pudeur dans un des dossiers. Et ça survient, cette histoire-là est arrivée il y a 38 ans, donc un dossier qui doit être béton pour que 38 ans plus tard, on puisse poser des accusations. Et dans les autres cas, les plaintes ont été abandonnées parce qu'il n'y a pas, pour le DPCP, il n'y a pas de cause, problème de preuve, hors de tout doute raisonnable. Donc, dans cette histoire-là, d'abord, il faut saluer les femmes qui ont osé et qui voient, celles qui voient leurs plaintes rejetées, parce qu'il y a ces 14 femmes qui ont déposé des plaintes, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne l'ont pas fait, mais qui se sentent aujourd'hui peut-être spoliés d'un procès ou qui se sentent soulagés parce qu'il y aura un procès. J'ai l'impression que les sentiments doivent être mitigés, mais il faut saluer les femmes qui ont osé. Et il faut parler du nombre. Marie-Claude, ça aura pris 14 femmes en bonne et due forme, 14 plaintes pour qu'une seule aboutisse. Elle n'est pas encore gagnée. Le procès n'a pas encore eu lieu. Il y a toujours présomption d'innocence. Mais le nombre, comme dans le cas du juge américain Kavanaugh, ça a pris plusieurs femmes pour qu'une ose aller en procès. Mm-hmm. Comme dans le cas de Bill Cosby, il y en avait des dizaines pour qu'un cas aboutisse. Donc, et tout ça, des dizaines pour qu'une accusation soit reçue. Et en amont, on sait que toutes les agressions ne sont pas dénoncées, que certaines sont, une fois qu'elles sont dénoncées, sont abandonnées en cours de route.
Ah oui, et puis, je ne sais pas si tu te souviens, Michel, j'ai un trou de mémoire, de la journaliste de la presse qui avait déjà dit qu'elle avait été violée enfant ou très jeune, ou très, non, pas enfant, mais jeune. Et puis elle a dit après,
Michel Ouimet,
qui avait dit après, je regrette quasiment parce que depuis ce temps-là, quand on me voit, quand on me rencontre, on me voit comme une femme violée.
Ouais.
Non pas, c'est comme si on voyait que
c'est
ça.
C'est très lourd
à porter.
C'est très lourd et c'est pas un genre de procès dont on se remet facilement. Et il y a 3% des accusations qui finissent par une condamnation.
Combien?
3% seulement. Sur 100 cas, il y en a 3. Donc, je dis, ça va aller en procès, mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'en sauvera pas. Et ça soulève vraiment une crise de conscience, de confiance plutôt, envers la justice. On est à l'ère du moi aussi, de l'après-moi aussi, où on dit, go, allez-y, il y a un système de justice qui est prêt à vous accueillir, à accueillir vos plaintes. Or, on se rend compte qu'on attend beaucoup du système de justice, mais que la preuve doit toujours être en béton, sinon...
Trop peut-être même. Parce qu'on aurait pu, comme disait Mme Yvon, Véronique Yvon, qui
oui.
disait, dans certains cas, peut-être que le DPCP aurait pu laisser passer puis se dire, ben le juge, elles parleront
oui.
au juge, on verra si le juge...
Oui, parce ça, c'est
dit,
la
on
poursuite.
On
mais qu'est-ce
croit.
Que la défense va faire si le dossier n'est pas en béton? Parce que le courage, la vérité et le nombre, on s'aperçoit, ne sont pas suffisants. Ça prend plus pour aller à l'étape suivante. Ça prend donc cette profonde conviction du DPCP. Ça prend des preuves béton. Il faut aussi se réjouir, Marie-Claude, de vivre dans une société où une simple plainte ne fait pas qu'un accusé se retrouve en prison. Il y a toujours la présomption d'innocence.
Mm-hmm. C'est très important de le souligner aussi.
Mais le système de justice n'est peut-être pas apte à recevoir ces cas très délicats d'agression sexuelle. Et c'est dorénavant, je crois, aux politiques de faire avancer les choses dans le système de justice. Si le système de justice n'est pas apte à recevoir ce genre de plainte-là dans l'époque post-MeToo, il faut que le politique, que le législateur aille de l'avant et fasse peut-être changer des choses parce que sinon on encourt une crise de confiance envers le système judiciaire.
Et t'as entendu Mme Yvon hein, qui
absolument,
dit qu'elle veut, créer,
j'ai vu
qu'elle
son
veut
tweet,
qu'on crée un tribunal qui s'occuperait de ces dossiers-là.
Mais peut-être que c'est une solution parce qu'il faut que le mouvement se poursuive. Il y a des progrès, il y a un choc de société, il y a des femmes qui prennent la parole et ce n'est pas dans tous les milieux. Là, on est dans le cas de femmes, de médias et du milieu artistique qui ont peut-être plus facilement la parole. Mais dans les entreprises, dans les petites entreprises, chez les femmes autochtones, la parole n'est pas complètement déliée là et même est loin d'être déliée. Donc, il faut que le système puisse accueillir ce genre de déposition. Et les temps ont vraiment changé et il faut que la justice suive. Donc, ça va être aux politiques de prendre le relais. Et ce que je note, dernière chose sur ce cas-là, l'ancienneté du cas, ce n'est pas un obstacle. Ce cas date de 38 ans et il est reçu. J'ajouterais juste que, avec ce qu'on sait aujourd'hui, il y a maintenant des batteries d'avocats qui sont prêtes à accueillir les cas, à défendre les femmes. Les mentalités ont changé aussi avec le mouvement Moi aussi. Donc, n'attendez pas 38 ans. Plus c'est frais et plus il y a de preuves au dossier, plus c'est béton et plus on ne risque pas de terminer dans 3 sur 100.
Ouais, même si c'est difficile, on le répète, Exactement. C'est extrêmement difficile à et porter sur ses épaules parce qu'il y a toujours, malheureusement, Marie-France, puis je suis sûre que tu vas être d'accord, certaines femmes se sentent coupables.
Absolument.
D'avoir été agressé.
Oui. Et c'est pour ça que je tiens à dire que ce qui se passe aujourd'hui, un seul cas sur 14 et beaucoup d'autres en amont, ce n'est pas un échec parce que c'est un pas de plus dans une parole qui se libère et une justice qui est en train très tranquillement de changer.
Et des chroniques comme celle-ci sont importantes aussi.
Ben, merci.
De ta part. Parlons maintenant d'un autre sujet complètement, mais qui est lourd à porter aussi d'une autre façon. Marguerite Blais qui consulte en vue de sa politique des proches aidants. Il va falloir déterminer techniquement qui est un proche aidant.
Exactement. Et c'est vraiment intéressant. C'est pour sa future politique des proches aidants. C'est vraiment intéressant parce que le proche aidant typique prend soin d'un parent âgé en perte d'autonomie, sauf qu'on se rend compte que dans les proches aidants, il y a aussi des parents de jeunes lourdement handicapés et de moins jeunes lourdement handicapés, de proches qui ont un problème de santé mentale ou de toxicomanie. Ce sont donc aussi des proches aidants. On calcule que 25 % des Québécois seraient des proches aidants et que les statistiques sous-estimeraient le phénomène parce que plusieurs font du déni. Les hommes, beaucoup, font du déni, ne se considèrent pas comme proches aidants parce que on a une résistance inconsciente à s'identifier parce que c'est comme normal.
Et c'est mon devoir c'est de mon m'occuper devoir. De... C'est
Donc,
ma femme, je
exactement.
L'aime, voilà.
Et d'ailleurs, dans la manière dont on a changé d'aidant naturel à proche aidant, il y a déjà quelque chose qui se joue aidant naturel parce que c'est pas toujours naturel d'aider. Donc, dans proche aidant, il y a quelque chose de peut-être un petit peu plus technique et c'est là où la définition va être intéressante.
Moi, je trouve que ça décrit beaucoup mieux la chose.
Ça décrit
exemple,
beaucoup
parce que
mieux
quand on
la chose.
D'aidant naturel, Exactement. Je te le cache pas dans les premiers temps, quand l'expression est sortie, les tout début, moi, j'avoue que je me disais... C'est... Quoi, ça, un aidant naturel?
Exact, parce que
les
autres sont surnaturels. Il y avait vraiment quelque chose d'étrange. Parce que, alors, c'est quoi exactement, puis ça devrait faire quoi? Parce que pour chiffrer monétairement ce que c'est qu'un proche aidant, et pour donner un budget à ce ministère-là, il va falloir préciser techniquement ce que c'est et ce que ça rapporte. Alors, un proche aidant, c'est évidemment du cœur, c'est du don de soi, c'est du déni aussi. C'est ce qu'on a toujours considéré, mais ça ne fit pas avec les calculs des heures et des tâches qu'il faut accomplir. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Il va falloir définir à combien d'heures de soins et ou de présence est-on un proche aidant. On peut ne pas être très présent physiquement, mais s'occuper, par exemple, être celui ou celle dans la famille qui s'occupe de toute la paperasserie, les impôts, tout ce qui concerne
la personne malade.
Oui. Mais ce n'est pas nécessairement des heures de présence, mais c'est du travail de proche aidance quelque part. Donc, à combien d'heures et quel genre de soins? Qui est proche aidant? C'est très différent, effectivement. Il y a des cas de mari ou de femme qui s'occupent de leur conjoint, mais il y a des cas, on peut s'aider, on peut s'occuper d'une tante éloignée. Jusqu'où le lien familial tient-il? Des grands amis s'occupent d'une personne malade, mais ils n'ont pas de lien familial.
Ce sera pas facile.
Il y a tout ça. Comment autoriser légalement et facilement le partage d'informations officielles et légales. Ça prend, dans le cas d'un parent, ça prend une procuration pour s'occuper pour des finances, par exemple, de quelqu'un qui est malade. Mais dans le cas d'amis ou dans le cas d'un lien familial plus éloigné, il va falloir faciliter ça parce que c'est pas évident non plus.
Non, puis le budget est pas non plus illimité, là.
Exactement. Et puis, dans quelle situation de logement? Actuellement, pour les fins de crédit d'impôt, il faut héberger protéger l'aîné, où il y a vraiment des conditions très, très, très particulières. Si la personne est dans une résidence, elle n'habite pas chez vous.
Ça ne tient plus.
Ça ne tient plus.
Même si on va des heures à chaque jour
nourrir,
parce qu'on sait ce qui se passe dans certains CHSLD, donc on a envie d'être proche puis nourrir.
Donc, il va falloir préciser ça. Je te disais tout à l'heure qu'on a calculé qu'il y avait un manque à gagner de 15 000 $ par année pour quelqu'un qui s'occupe d'un proche comme ça. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de boulot pour Mme Blais. Il va falloir chiffrer, encadrer quelque chose qui est secret, qui est douloureux, qui est noble, qui est caché, qui pour certains est des fois honteux. C'est vraiment une révolution qu'on est en train de vivre, une voie vers la reconnaissance, vers plus de simplicité, vers plus de normalité. Et je termine en disant que des proches aidants reconnus, ça va faire des aînés et les autres aussi, les handicapés toxicomanes, mieux traités dans notre société.
C'est sûr.
C'est évident.
C'est sûr.
C'est vraiment un travail inouï auquel elle s'attelle, mais vraiment, vraiment essentiel pour la société.
On va espérer de tout cœur qu'elle aura les oreilles, pas juste l'oreille, mais les oreilles des ministres responsables de tout ce qui est la finance,
bien
conseil
sûr,
du
la
trésor,
famille,
etc.
La finance, tout. La santé,
C'est gigantesque. C'est un projet de société total.
Vraiment, ça tricote plein de ministères ensemble et il le faut d'ailleurs.
Et on va lui souhaiter et on va se souhaiter bonne chance.
Absolument.
Marie-France Bazot, merci beaucoup.
Un grand plaisir. À très bientôt.
Salut.